L'écho des campagnes, portrait d'entreprise rurale tournée vers l'ailleurs. Une série produite par Radiola. Nom de l'entreprise.
Le cinquième rêve.
Date de création.
19 mai 2008.
Lieu du siège.
Dieulfi, près de la place Châteaurat.
Nombre de salariés.
7 à temps plein et puis plus tous les intermittents.
Date d'implantation en Drôme.
19 mai 2008, au moment de la création.
Chiffre d'affaires.
C'est très variable selon les années, mais ça oscille entre 1 et 2 millions d'euros.
Forme juridique.
SARL.
Localisation de la clientèle.
Partout dans le monde.
Je m'appelle Nicolas Zunino, j'habite à Dieulfi depuis 2008, date de création justement du cinquième rêve.
Enchantée Magali.
Eh bien bienvenue.
Merci.
Est-ce que je vous offre un petit café?
J'ai fait toute ma carrière en fait dans l'audiovisuel, c'est-à-dire que dès la sortie de mes études, j'ai fait une école d'audiovisuel, j'ai travaillé dans le documentaire, donc j'ai vraiment baigné là-dedans depuis plus de 20 ans aujourd'hui. J'ai vécu sur Paris pendant 13 ans. Ayant grandi à la campagne, dans l'ouest de la France, j'ai vraiment ressenti le besoin de revenir en connexion avec la nature, avec les arbres, etc. Et donc, voilà, je me suis installé en Drôme en 2006 et plus exactement à Dieulfi en 2008. J'ai fondé le cinquième rêve avec deux autres associés qui sont Thierry Robert et Arnaud Tortel, qui maintenant prospèrent voilà, depuis plus de 10 ans.
Petit verre d'eau, donc Magali et
Théo.
Théo.
Alors le nom en fait vient d'un livre qui a été écrit par Patrice Van Hersel qui s'appelle Le cinquième rêve. Cette idée que finalement l'homme est en quelque sorte le rêve du dauphin, le rêve des cétacés, le rêve de ces grands animaux marins. Et donc c'est tiré de cette légende amérindienne qui est une légende très spirituelle à laquelle on adhère.
La boîte, en fait, au départ, c'était un bureau dans ma maison pendant quelques années. Et on s'est installé ici en 2014.
C'était les anciens locaux de cabinet de kiné. Et donc, c'est également avant ça un ancien hôtel. Donc, c'est pour ça que vous avez ce grand couloir qui distribue comme ça ce qui était avant ça des chambres d'hôtel. Voilà, donc là, on était dans l'espace un peu commun, cuisine, où on prend nos repas et on boit des petits cafés. Ici, vous avez le bureau de Thierry Robert, qui est mon associé et qui est réalisateur. À droite, vous avez mon bureau à moi.
Le placard avec
tout notre matériel, parce que l'air de rien, quand on fabrique des films, on a évidemment besoin de matériel, des caméras, des drones, du matériel son. Nous, on est à Dieulfi, on n'a pas de prestataire de service qui loue des caméras professionnelles en bas de chez nous. Donc on a pris le parti depuis plusieurs années d'investir dans du matériel, de manière à d'une part avoir accès à ce matériel en permanence. Quand on a besoin de partir en tournage demain matin, bah, notre matériel il est là, il est prêt. Et donc on gagne un temps fou parce qu'on n'a pas besoin d'aller à Paris ou à Lyon chercher du matériel à chaque fois. Ça c'est une photo de Éric De Guil, qui est un personnage qu'on a filmé dans notre série documentaire qui s'appelle Super Héros, la face cachée. C'était une série qui était présentée et incarnée par Arnaud Tortel, qui est aussi un enfant de Dieulfi et qui est associé du cinquième rêve, qui mettait en valeur des athlètes de sport extrême.
Ce qui est trippant, c'est les 3 premières secondes, je trouve, parce que tu pars, tu te jettes dans le vide, t'as encore aucun appui sur l'air.
Et surtout, on allait explorer un petit peu avec eux pourquoi c'est des gens qui mettaient leur vie en danger, pourquoi ils faisaient des sports à risque.
On découvre que notre corps est capable de faire des choses extraordinaires.
Nous, on est des passeurs, en fait, entre des gens qui ont eu des histoires incroyables, des prises de conscience. Et tout ça, ça peut se manifester à travers du sport extrême, et ça peut se manifester à travers des gens qui font de l'exploration sur les pôles, des scientifiques qui défendent des idées sur les fermes sauvages. C'est un sujet qu'on est en train de faire. Et on se dit, bah tiens, il mérite qu'on en parle un peu plus. Et on espère que ça puisse justement inspirer peut-être d'autres personnes et de se dire, bah tiens, si lui le fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire aussi?
S'il y a juste une phrase à retenir, c'est de croire en soi-même. Et là, tu y es, tu as toute la recette.
« pour le choix des films, on fait des réunions tous les 15 jours avec toute l'équipe, des réunions de production, où on pose sur la table les propositions de films qui ont pu nous être faites, sachant que c'est vrai que je reste quand même celui qui fait les premiers filtres. Donc j'écarte les projets qui sont, à mon avis, qui sont pas pour nous. Il y a évidemment une dimension coup de cœur, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des critères, il y a des paramètres, il y a des est-ce qu'on va réussir à le vendre à telle chaîne, à Arte, à France Télé, à National Geographic, à NHK au Japon, etc. Mais avant tout, c'est le coup de cœur. Parce que finalement, c'est ça qui compte. C'est-à-dire que si un sujet me plaît, si les personnes qui me le proposent, je sens que je vais bien m'entendre avec eux, et que l'équipe, évidemment, va bien s'entendre avec eux, eh ben je sais que ce sera la clé pour le succès du film. Il y a une assistante de production qui s'appelle Mélodie. Il y a une chargée de production qui s'appelle Margot. Donc c'est des personnes qui s'occupent de toute la fabrication des films, que ce soit au niveau de la préparation des tournages, au niveau de la coordination des post-productions et au niveau de la communication des films, gérer les festivals, etc. Après, on a une personne qui s'occupe évidemment de l'administration et de la compta. Ça, c'est indispensable dans toutes les sociétés. Et après, les choses un petit peu plus spécifiques qu'on peut avoir, c'est qu'on a un graphiste qui s'occupe des effets spéciaux, des effets visuels, qui s'appelle Christophe. Et puis, on a Aurélien, qui est technicien de post-production. Donc, c'est pareil, qui gère tous les aspects de post-production. Le montage, le mixage, l'étalonnage, qui prépare tous les médias, etc. Parce que nous, on travaille évidemment que sur des fichiers numériques. Et puis, on a également Thierry Robert, qui est réalisateur, donc qui peut être amené à écrire, à concevoir des projets de films, mais aussi à les réaliser, c'est-à-dire vraiment à les diriger artistiquement tout au long de leur fabrication. Dans un second cercle, on va dire, on travaille avec beaucoup d'intermittents du spectacle qui sont répartis sur toute la France et qui peuvent être des réalisateurs, des caméramans, des ingénieurs du son, des étalonneurs, des mixeurs, des pilotes de drones et des gens qui vont travailler ponctuellement avec nous sur un tournage en particulier ou une mission en particulier.
La NASA compte envoyer des hommes sur Mars dans les 20 prochaines années.
Alors là, on arrive dans la salle de contrôle de l'Enterprise, qui est donc le bureau de Christophe Sylvestre, la salle où on fabrique tous les effets spéciaux.
Une mission extrêmement dangereuse. 60 millions de kilomètres, 3 ans de voyage aller-retour, et des problèmes auxquels aucun humain n'a jamais été confronté.
Je fais des effets spéciaux. Par exemple, je découpe l'orque, je découpe le bateau, je découpe la mer qui est au premier plan, je découpe les petits poissons. Et avec une caméra virtuelle, en fait, je change d'axe. Donc on a l'impression que cette photo bouge, comme si on rentrait dans la photo. Et aussi effacer des choses qu'on ne veut plus voir. Un pilote de drone qui est au milieu du champ, donc je l'efface. Ou des infographies pour expliquer l'inexplicable.
Ça fait 6 mois que mes coéquipiers et moi sommes enfermés dans un dôme pour simuler une mission sur Mars.
L'habitat de glace imprimé en 3D devra résister aux rayons cosmiques mortels.
Une copine me dit « Pourquoi tu montes pas ce que tu fais ?» En effet, en graphe, en tout ça, quoi. Et je lui dis « Ben oui, mais en fait, je connais personne. » Elle me dit « Il y a Thierry Robert, qui est réalisateur, qui habite à La Paillette, tu devrais lui proposer. » Donc, j'ai envoyé un mail. Il travaillait à l'époque sur le piège blanc. Donc, il était au Groenland. Donc, il m'a dit « Je reviens dans un mois et demi. » Effectivement, un mois et demi après, il m'a contacté. Il m'a dit « Montre-moi ce que tu sais faire. » Et quand il a vu, il m'a dit « Tu veux pas bosser pour nous ?» J'ai dit « Ben oui. »
Et là, on arrive dans l'open space de production. Donc, vous avez ici Mélodie, Margot et Rachida de l'autre côté. Donc, ici, c'est vraiment la partie production et administration. Donc, ce sont les équipes qui travaillent pour notre quotidien, qui est organiser des tournages, organiser des post-productions et, je dirais, gérer toutes les affaires courantes de la boîte.
Mélodie Argentino, j'ai 29 ans et j'entame presque la cinquième année au cinquième rêve.
Et ça, on est bien d'accord, il faudra le faire tous les jours. Hein.
Bah, 2 fois par jour.
Ouais, c'est ça. Ouais.
J'ai vu un documentaire sur une expédition polaire qui passait sur France 3 Thalassa. Comme c'était chez mes parents, on a pu l'enregistrer et le revoir et le revoir et le revoir. Jusqu'à ce que je le montre à une amie, je l'achète en DVD, je vois le making-of, et à la fin de mes études, je devais faire un stage et je me suis dit que c'était là que je voulais aller.
Je m'appelle Margot Seyère, j'ai 33 ans et je suis arrivée il y a 2 semaines. Je reviens de 2 années en Nouvelle-Zélande, à Wellington, où je travaillais et je travaille depuis 7 ans dans le dessin animé, donc dans la production audiovisuelle de dessin animé. Et j'avais très très envie de faire autre chose que du dessin animé. Et du coup, je suis venue postuler ici et c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe du 5e rêve. C'est beaucoup de coordination notre travail. Mais là, ça va être plus un point de vue un peu plus administratif dans le documentaire.
C'est intervenir à tous les moments du film. Ça va être de l'aide de mise en page de dossiers, de la relecture pour la livraison aux chaînes, pour que les chaînes achètent nos films et y croient. Quand le film est acheté et produit, ça va être l'organisation de tous les tournages, le suivi des disques durs, la coordination avec toutes les équipes, avec la gestion des images, la relation avec la presse, l'organisation des avant-premières, l'inscription dans les festivals, le suivi, la coordination avec des festivals qui peuvent être partout dans le monde.
Mon métier, c'est d'être producteur. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est la fabrication des films. Ce que j'aime, c'est être sur le terrain, c'est être en salle de montage, c'est mettre des gens ensemble qui ont des idées que je trouve être intéressantes et à mettre en commun. C'est agglomérer des énergies, des synergies. Tout ça en vue de fabriquer des films et qui soient à la fois le plus beau possible selon nous et avec les moyens qu'on a, mais qui aussi font sens.
On est au courant des films qui arrivent, mais je ne sais pas encore ce que je vais y faire dessus. C'est vraiment au coup par coup, c'est le réalisateur qui choisit à un moment donné de faire je ne sais quoi, et on en parle et je réfléchis comment je vais le faire, parce qu'à chaque fois je ne sais pas comment je vais faire. Alors il y a des réals qui veulent travailler avec moi, donc ceux qui me disent « bon, ben, j'aimerais bien tel effet à tel endroit ». Après, ils me donnent un peu carte blanche. Alors évidemment, c'est un travail où il y a beaucoup d'aller-retour. Je fais une première proposition, après, on fait des corrections. Après, ça passe par le filtre de la chaîne. C'est-à-dire ils peuvent dire « cette idée ne correspond à rien, ça ne me plaît pas, donc ben, mon boulot est abandonné ou complètement modifié ».
Quand on fait des films documentaires, c'est un process qui est très long. On peut mettre un an et demi pour fabriquer un film. Ça veut dire qu'il y a une phase d'enquête, il y a une phase d'écriture, il y a une phase de repérage. Après, il y a des tournages, après, il y a du montage. Il y a énormément d'éléments qui viennent nourrir ce film, que ce soit la musique, le commentaire, les personnalités qui sont interviewées dedans, etc. Et donc, finalement, si tout ça n'est pas guidé par une direction éditoriale forte, on fait des films qui ne veulent pas dire grand-chose. Nos clients principaux, ce sont les chaînes de télévision, que ce soit les chaînes françaises ou internationales. Et donc, parfois, il y a des moments très durs qu'on appelle les visionnages. C'est-à-dire qu'on fabrique ce film pendant des mois, voire des années. Et puis, à un moment donné, on va montrer ce film à la chaîne de télé qui nous l'a commandé. Ou en tout cas, à qui on a réussi à vendre le projet. Et là, des fois, ça peut être très dur parce que ce film ne va pas correspondre aux attentes, parce qu'on va se prendre un certain nombre de réflexions ou on va devoir renoncer à des choses qu'on a voulu mettre dans le film. Et ça, c'est des étapes qui peuvent être extrêmement décourageantes parce qu'on a l'impression d'être arrivé au bout d'un travail qui était épuisant. Et il faut retourner à l'ouvrage et il faut recommencer. Et des fois, on est malheureusement obligé de compromettre un tout petit peu nos souhaits les plus chers parce que la chaîne reste un client et qu'à un moment donné, le client, il a raison. Donc on se bat, bien évidemment, on ne se laisse pas faire. Mais cette étape du visionnage avec la chaîne de télé, qui a ses propres contraintes, qui a ses propres lignes éditoriales, et c'est un des aspects durs quand on est producteur. Ouais.
Là, c'était l'ultime visionnage à distance, et donc on a eu le mail en disant « le film est validé ». Donc là...
Voilà. Pas tout de suite.
Pas tout de suite. Les trappes pour ton générique.
Tu penses qu'à toi.
Les graphistes, ils pensent que. Non, faut lancer. Je vais lancer mon mail global avec tous les trucs de post-prod là, pour qu'on sache qui fait quoi, où, comment, combien, tout ça.
Ouais.
Il faut surtout vérifier qu'Alexis, faut qu'il fasse ses AAF et.
Mais ça peut être fait lundi.
Non.
Non.
Il démarre lundi aussi.
Ah oui, démarre lundi. Mais c'est vrai que le mix est arrivé.
Voilà. Super. Ouais. Donc ça c'est cool.
On est tous contents.
Pour moi, l'économie du documentaire, c'est l'économie de la passion. C'est un métier où on compte pas ses heures. Ça peut être très difficile parfois, ça peut être très stressant parce qu'il y a des deadlines, parce qu'il y a des imprévus qui nous mettent des bâtons dans les roues quand on est en tournage, par exemple. Et en même temps, la récompense, elle est tellement géniale. C'est-à-dire qu'après un an de travail, après des fois 2 ans de travail, quand on arrive à sortir un film, et que il y a des gens qui viennent nous voir en disant « Oh là là, j'ai vu votre film sur les requins, j'ai vu votre film sur les super-héros, j'ai vu votre film sur ces explorateurs au pôle Nord », et qu'en fait, ils ont besoin de rien nous dire, ces gens-là. Ils ont juste une lumière dans les yeux, on leur a fait passer un bon moment, et ça, c'est une récompense magique qui n'a pas de prix. C'est vraiment, on ne peut pas tenir dans ce métier si on n'est pas passionné.
On continue de rêver avec ce film-là et le film ne s'arrête pas à la diffusion télé. On continue de vivre dans le monde et les gens continuent de le voir. Le contact avec les gens des festivals est toujours agréable parce que c'est souvent des passionnés et qui sont ravis de recevoir au mieux les équipes et au mieux les films.
On travaille très peu pour le cinéma. En revanche, on est effectivement très présent dans les festivals. C'est pour ça qu'on gagne parfois des prix. On offre une avant-première à tous les habitants de Dulphy de manière gratuite sur tous nos films. Donc prochainement, là, probablement fin mars, on va avoir l'avant-première d'un film sur les orques qui s'appelle Norvège, le festin des orques, qui est un film qu'on a tourné depuis 2 ans et qu'on va projeter à Dulphy. Tous les habitants du territoire sont invités à venir le voir s'ils le souhaitent. C'est gratuit et on boit même un petit coup à la fin. Et on rigole bien. Ça, c'est une petite sélection des trophées qu'on a reçus. En tout, on a dépassé maintenant le cap des 50 prix reçus dans des festivals internationaux sur l'ensemble de nos films. La plupart des trophées, ce sont les réalisateurs des films qui les gardent chez eux, mais de temps en temps, on les récupère. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose qui est... c'est des récompenses qu'on peut avoir. C'est évidemment très gratifiant pour les équipes qui ont travaillé sur les films de recevoir des prix dans des festivals dont certains sont assez prestigieux. Et donc c'est ce qui donne, maintenant que la boîte existe depuis plus de 10 ans, une certaine ampleur, une certaine légitimité à notre travail et une certaine reconnaissance en tout cas et du public et des professionnels. C'est sûr que c'est des choses qui font plaisir, évidemment.
Dulphy est absolument charmant. J'adore cet endroit. Pour moi, c'est un retour en France, mais c'est une nouvelle aventure formidable de trouver ce genre d'environnement et dans le travail et dans la vie. C'est juste un luxe énorme, quoi.
Pour continuer le voyage vers le polaire, moi, je pars en Islande bientôt. Passer de l'autre côté de la barrière, vu que je me suis formée comme monitrice de plongée. Donc c'est pour ça qu'on part en Islande avec mon amie faire ça là-bas, continuer notre rêve d'ailleurs et d'autres choses. Voilà, une vie d'aventure. Peut-être on fera des films sur nous maintenant.
L'écho des campagnes, une série réalisée par Théo Fortunato et Magali Fustier, avec le soutien de la communauté de communes de Dulphy-Bordeaux, l'Union européenne, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le GAL Porte de Provence. Retrouvez les portraits de toutes les entreprises de l'écho des campagnes sur www.radiola.media/EDC comme écho des campagnes.